Audiolib présente Notre-Dame de Kate Follett, traduit de l'anglais par Odile Demange, lu par Patrick Descamps. C'était une de ces journées de printemps qui ont tant de douceur et de beauté que tout Paris, répandu dans les places et les promenades, les fêtes comme des dimanches. Dans ces jours de clarté, de chaleur et de sérénité, il y a une certaine heure, surtout, où il faut admirer le portail de Notre-Dame. C'est le moment où le soleil, déjà incliné vers le couchant, regarde presque en face la cathédrale. Ses rayons, de plus en plus horizontaux, se retirent lentement du pavé de la place et remontent le long de la façade à pic, dont ils font saillir les 1000 rondes bosses sur leur ombre, tandis que la grande rose centrale flamboie comme un œil de cyclope enflammé des réverbérations de la forge. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, c'est dans toutes les langues qu'on la pleure. Paris Match. Chapitre 1, 2019. La voix au téléphone était pressante. « Je t'appelle de Paris, mets la télé !» J'étais chez moi à la cuisine avec Barbara, ma femme. Nous venions de finir de dîner, je n'avais pas bu une goutte de vin, ce qui était une bonne chose. Je ne le savais pas encore, mais la soirée allait être longue. C'était une vieille amie qui m'appelait. Députée et ministre, elle a surmonté bien des crises et il en faut beaucoup pour l'émouvoir. Elle semblait pourtant bouleversée. Vous savez ce que nous avons vu à l'écran ? Notre-Dame de Paris, cette merveilleuse cathédrale, un des plus grands chefs-d'œuvre de la civilisation européenne, était en flammes. Cette image nous a stupéfiés et chavirés au plus profond de nous-mêmes. J'étais au bord des larmes. Un bien inestimable mourait sous nos yeux. C'était aussi effarant que si le sol s'était mis à trembler sous nos pieds. Je connais bien ce bâtiment. Une année à Noël, nous y avons assisté à la messe de minuit, Barbara et moi. Des milliers de gens se pressaient dans l'église. La lumière diffuse projetait des ombres profondes dans les allées. La nef retentissait de l'écho des cantiques et la haute voûte au-dessus de nous était plongée dans les ténèbres. Le plus émouvant était de savoir que pendant plus de 800 ans, nos ancêtres avaient, comme nous, célébré Noël dans cet édifice. Je m'étais rendu dans cette église en bien d'autres occasions. Ma première visite datait de 1966, lors de mes premières vacances hors du Royaume-Uni. Je crains cependant qu'à 17 ans, j'ai été trop attiré par les filles de notre groupe pour m'intéresser sérieusement à une cathédrale. Et ma dernière image d'elle remontait à 4 semaines seulement. Lorsque passant en voiture sur la rive gauche, je m'étais comme toujours enivré de l'éblouissante vision de ses tours jumelles et de ses arcs-boutants. Dès que je me suis mis à réfléchir rationnellement à ce que montrait la télévision, j'ai compris ce qui brûlait et pourquoi le feu prenait de la vigueur, des éléments qui ne pouvaient qu'échapper aux journalistes qui commentaient l'événement. Après tout, ils n'avaient pas étudié la construction des cathédrales gothiques. Je l'avais fait, moi, dans le cadre de mes recherches pour Les Piliers de la Terre, le roman que j'ai consacré à la construction d'une cathédrale médiévale imaginaire. Une scène clé du 4e chapitre dépeint l'incendie de la vieille cathédrale de Kingsbridge. Et je m'étais posé cette question, comment précisément une grande église de pierre prend-elle feu? J'étais monté dans les espaces poussiéreux situés sous les toits de cathédrales comme celle de Canterbury et de Florence. Je m'étais tenu sur les puissantes poutres qui enjambent les nefs et j'avais levé les yeux vers les chevrons qui soutiennent les plombs. J'avais remarqué les détritus desséchés qui s'accumulent souvent de tels lieux. Bouts de bois et de cordes, emballages de sandwichs laissés par des ouvriers d'entretien, brindilles entremêlées de nids d'oiseaux et demeures de guêpes, fines comme du papier. J'étais convaincu que l'incendie avait dû prendre quelque part sous le toit. Sans doute un mégot abandonné ou une étincelle due à un court-circuit avait-il embrasé des débris qui, à leur tour, avaient mis le feu à la charpente. Les dégâts qui en découleraient risquaient de provoquer l'effondrement de tout le bâtiment.